la première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h, par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi, par où dire ?
Et c'est vrai que jusqu'à présent, l'été de la photographie, qui est une initiative de Beaux-Arts, mais pas pour Beaux-Arts, mais vraiment un projet qui a été initié avec Paul il y a déjà longtemps, parce que je vois aujourd'hui que c'est la 7e édition, et comme c'est une biennale, ça fait 14 ans que l'été de la photographie est organisé à Bruxelles avec des partenaires multiples.
Été de la photographie. À Bruxelles, à l'espace Contre-Type, l'industrie après. Jusqu'au 2 septembre.
Donc pour l'été de la photographie, donc chaque édition, il y a plusieurs partenaires qui participent. Il y a des partenaires qui sont toujours là, parfois ça varie. Cette année, on est vraiment plus que ravis d'annoncer qu'il y a 4 partenaires nouveaux. Il y a Workspace Brussels, il y a le MAD, il y a MEPS Images et le Brassage Photographique. Et nous sommes vraiment super contents de pouvoir accueillir pour chaque édition des nouveaux partenaires.
L'air chevrier.
Tout mon travail depuis à peu près 30 ans maintenant, je pose toujours la même question finalement. Donc d'un moment, on se rend compte que les motifs sont différents, mais que la question que je pose est toujours la même. Donc c'est toujours un questionnement autour de l'homme et de l'espace qui souvent lui est construit. Et donc à partir de ce questionnement-là, à chaque fois, je vais organiser des projets différents, à des échelles différentes. Donc par exemple, avant le travail avec le CRP qui est montré ici aujourd'hui, il y a eu toute une recherche dans différentes mégalopoles où la question était comment dans des grandes structures urbaines de 20 millions d'habitants qui ont été pensées par des hommes pour d'autres hommes, finalement, qu'on est physiquement dans ces espaces-là, ça fonctionne plus ou moins bien. Il y a les gens qui vivent là, c'est pas les gens qui ont conçu ces lieux-là. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est de trouver les lieux de résistance qui arrivent malgré tout à apparaître. Et dans les mégalopoles, en partant vraiment de la nature, par structure, typologie par typologie, je me rapprochais du centre-ville. Et au bout d'un moment, dans les centres-villes, je me suis dit, là maintenant, je commence à avoir un corpus assez vaste de vues urbaines, de paysages urbains. J'aimerais maintenant pousser les portes et rentrer dans les bâtiments, de passer de l'extérieur à l'intérieur. Mais je voulais pas du tout être dans l'intimité, mais vraiment dans la question du travail. Un travail à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, qui était à un moment charnière, un petit peu de basculement à l'économie. Il faut dire que c'est une petite ville très connue pour le travail du cuir, qui était souvent faite par des femmes de paysans l'hiver, il y a très longtemps. Et donc c'était au moment du génocide en Arménie. Il y a eu énormément de réfugiés arméniens qui sont venus s'installer en France, et notamment dans la Drôme. Et donc c'est là où on a eu toutes les fabriques de cuir comme Manoukian, Kélian, tout ça. Et au moment où j'ai fait ce travail-là, en 2005, c'était vraiment le moment où tout le cuir périclitait. Donc je me suis dit, là il se passe quelque chose, ça serait intéressant de voir quelles sont les entreprises qui arrivent et quelles sont celles qui partent. Sans être dans vraiment une question de reportage, mais vraiment un questionnement d'image, là aussi typologie par typologie, c'est-à-dire des portraits, des gestes de gens qui sont concentrés dans leur travail, et puis au fur et à mesure, on change le cadrage et on agrandit l'échelle jusqu'au paysage.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kalisky.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechinsky.
Authentique, me tentop, me tentententum, stélé.
Le monde invisible.
Plus qu'à ravi d'avoir comme voisin cette exposition de ce grand maître Hiroshi Sugimoto, donc une exposition qui est ouverte fin avril. C'est un artiste qui travaille avec ce médium de photographie de manière exceptionnelle. Pour l'édition de cette année, on a choisi de travailler autour de la résistance.
Été de la photographie. À Bruxelles, à l'espace contre-type, l'industrie après, jusqu'au 2 septembre. Avec à Bruxelles, Claire Chevrier, Muriel Enjalrand, Daniel Lennart et Sophie Lobers.
L'industrie et après, c'est le projet de contre-type.
À Douchy-les-Mines, Muriel Enjalrand, Jean-Pierre Gilson.
C'est l'homme au centre avec la machine autour, c'est leur relation.
C'est plutôt la relation. C'est plutôt la relation parce que pour moi, même si on pourrait penser qu'il y a quelques portraits, pour moi ce ne sont pas vraiment des portraits. L'origine vraiment du travail, j'ai toujours adolescente, j'étais passionnée par le théâtre et notamment par les didascalies. Comment un auteur, en quelques mots ou quelques pages, va organiser l'espace, va structurer, va poser l'espace. Et pour moi, c'est en 3D, mais la photo, ça va être en 2D, mais c'est, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est comment la photographie peut rendre compte de ça aussi. Je crois que c'est vraiment à l'origine pourquoi je fais de la photographie et pas un autre médium. Pour moi, la photographie a cette capacité-là de révéler des espaces. Et c'est profondément ce qui m'intéresse. Et tout le travail, donc, de est-ce que c'est l'homme qui est au centre ou la machine autour, pour moi, c'est vraiment comment l'espace est tendu et organisé et d'essayer de comprendre les circulations, les relations. Par exemple, une couturière, on dit les piqueuses, qui va fabriquer des chaussures. Elles sont plusieurs dans une salle, mais il y en a une, elle va avoir la photo d'un bébé, une autre, elle va avoir sa pomme, la bouteille d'eau. Ça, c'est pour les espaces minimales. Et puis, des fois, les gens circulent et du coup, ils vont tout doucement. Des fois, ils n'y arrivent pas, mais des fois, on se rend compte qu'il y a des petits objets personnels qui viennent ponctuer et qui viennent finalement structurer un petit espace qui n'est pas clairement identifié avec des bandes, mais il y a des détails qui font que ça va révéler un espace ou des circulations. C'est vraiment ça qui m'intéresse.
Ze zegt dat het hoofdthema van hun tentoonstelling is voornamelijk de industriële ontmanteling in het noorden en in de Pas-de-Calais. Het is ook een samenwerking met de CRM.
Été de la photographie, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Vous parliez du théâtre, Claire Chevrier. Théâtre classique, unité de temps, de lieu et d'action.
Alors ça, c'est pour le théâtre classique. Après, il y a toutes sortes de théâtres qui m'intéressent. Et...
Mais c'est le cas de votre photographie.
Mais voilà, voilà, absolument. Absolument. C'est le ici et maintenant. Je travaille dans différents lieux qui sont dédiés au handicap. Beaucoup sont des enfants autistes. Et je dis ça pour le ici et maintenant. Pour abonder dans votre remarque, à nouveau, cette question du ici et maintenant, comment des lieux ont été pensés pour d'autres et comment au quotidien les gens arrivent à exister dans ces lieux-là. Et avec l'autisme, on est encore plus dans cette question du ici et maintenant.
Et connaissez-vous la commissaire
Daniel Lennart, oui, oui, je l'ai rencontré voilà, il y a déjà quelques temps, au moment aussi où on préparait ce projet. Et c'était tout à fait intéressant et riche, justement, qu'une critique commissaire universitaire comme elle s'empare de la collection. Et j'étais curieuse de savoir quelle exposition elle allait en faire. Alors là, je suis curieuse de voir comment elle les a articulées les unes aux autres.
C'est quoi cet après l'industrie, Daniel Lennart ?
Ah, c'est toute la question. Une réponse courte serait la désindustrialisation, puisque c'est un petit peu le constat formulé, du moins par les photographies qui sont exposées ici. Mais pas seulement, en fait, c'est aussi deux points de vue défendus, gérés par les historiens, à savoir que finalement l'industrie n'est pas un processus historique qui serait clos et définitif après une chute, mais que cette désindustrialisation verrait une forme de poursuite d'autres formes d'industrie, alors qu'elles soient de nature complètement différente, comme celle de la culture ou des loisirs, qui parfois se réinstaurent dans les sites occupés par l'industrie historique préalablement, ou bien simplement qu'elles prennent une autre forme, liées notamment à l'économie de la connaissance que l'on connaît principalement aujourd'hui, mais qu'elles perdurent aussi dans des sortes de niches qui correspondent à des besoins, soit qui se prolongent, soit qui se renouvellent avec l'histoire. D'où la volonté aussi d'interroger cet après, sous forme de prolongation, de permanence, même après le désastre post-industriel ou de la désindustrialisation, et de quelle place encore pour l'industrie dans l'économie actuelle, et sous quelle forme.
En tout cas, le choix et la manière dont elle le défend aussi à travers la thématique et le texte est tout à fait pertinent, oui.
À Bruxelles, à l'espace contre-type, l'industrie après.
Le titre de l'exposition se voulait véritablement interrogatif, à dessein. Je ne pense pas qu'il existe de réponse monolithique, même si évidemment la crise et la chute de l'industrie telle qu'on l'a connue depuis le 19e siècle est incontestable.
Muriel Angelran. Donc je dirige le CRP depuis 2015.
Daniel Lennart, les paysages que vous avez vus en images ou réellement autour de Valenciennes, ressemble-t-il à ce que Charleroi a connu, Charleroi qui contient aussi ce musée de la photographie avec des documents d'archives sur l'industrie de l'époque?
Oui, je crois qu'il y a effectivement des ponts et des similitudes, effectivement en termes de paysages ou de ruines, voire de relief, hein, on pense au terril bien sûr, et qui sont caractéristiques de ces régions liées au bassin minier. On pourrait multiplier évidemment les exemples en Europe et pas seulement d'ailleurs, on pense à l'Allemagne hein, principalement aussi. Donc oui, il y a des ponts et des similitudes, et c'est vrai que c'est un des aspects qui nous a fait sentir assez proches aussi entre Contre-type et le CRP, partager effectivement le fait que les deux institutions soient dédiées à la photographie, mais participent aussi de zones géographiques qui ont connu, voire qui connaissent encore les mêmes fléaux. Alors effectivement, le musée de la photographie est implanté, lui, dans un Carmel, un petit peu à l'abri peut-être encore de cette réalité difficile et de cet héritage difficile. Oui, je parle de Charleroi et de Mont-sur-Marchienne, en l'occurrence, qui est quand même un périmètre assez privilégié et qui l'a visiblement toujours été. ce n'est pas un paysage que l'on côtoie effectivement directement pour ce qui est du périmètre de contre-type, mais c'est en tout cas une histoire qui nous est proche et une actualité qui le reste tout autant aussi. Il suffit de repérer quels sont les grands groupes. Hein. On pense à ArcelorMittal, on pense à Usinor aussi, aux absorptions successives en fait, à une échelle internationale et mondialisée de la production industrielle et des aciéries en particulier, qui font que oui, les deux territoires ont une destinée industrielle et historique sur ce plan-là très proche.
À Douchy-les-Mines. Douchy-les-Mines, nous sommes à 15 km au sud de Valenciennes, à 1,5 km de Denain, la commune voisine qui a vu finalement naître l'association CRP, ce projet de centre d'art dédié à la photographie.
Comment avez-vous choisi les photographes qui sont présentés à contre-type ?
La totalité en fait, de la collection du CRP est colossale. Hein. On compte près de 9000 images, ce qui est vraiment énorme. Et donc, il m'était évidemment impossible de tout parcourir. Et donc, tracer un fil conducteur a été nécessaire. C'était une question de survie aussi en tant que commissaire dès le départ. Et la nature même du CRP, donc sa raison d'être au départ, elle a été créée au départ en fait, de photographes qui avaient constitué un cercle photographique au sein d'Usinor. Donc il y avait déjà là un ancrage de cette association qui était liée à la réalité industrielle, m'a déjà mis sur les rails ou sur les pistes véritablement. Mais je n'avais pas non plus envie de restreindre l'activité du CRP ou en tout cas le reflet qu'on pouvait en donner ici à cette seule dimension et en particulier au seul versant historique de sa collection qui est quand même relativement connu. puisqu'un autre versant, et qui est remarquablement mis en œuvre aujourd'hui hein, par Muriel Angelrand, c'est la question de la résidence de recherche. À savoir donner carte blanche à un artiste photographe pour qu'il puisse s'imprégner en fait d'un territoire et y poursuivre aussi le cas échéant son œuvre et les problématiques qui les traversent. Donc pouvoir tirer ce fil conducteur et ce fil rouge jusqu'à l'actualité la plus brûlante entre guillemets de la photographie, mais néanmoins avec cette volonté de retracer en filigrane ce qui serait une forme de rétrospective historique de la question de l'industrie et de son après. Trois petits points ou points d'interrogation.
À écouter le son, nous sommes loin d'une région industrielle. Hein. On entend des enfants.
On entend plutôt les enfants et les oiseaux qui ont remplacé le cliquetis des chevalements. Je n'ai pas connu ça, mais effectivement, vous avez raison de le souligner, cette région du bassin minier était portée par cette rumeur constante, jour et nuit, de ces des puits d'extraction charbonneuse.
Les drapeaux sont accrochés aux fenêtres, c'est la Coupe du Monde.
Et, oui,
et vous accueillez la Belgique, à savoir plus spécialement Bruxelles, et dans Bruxelles, un centre de photographie Contre-Type.
Oui, tout à fait.
Savez-vous que le fondateur de Contre-Type, Jean-Louis Godefroy, a commencé son espace, sa démarche dans son living ? Vous saviez, sa rue d'Espagne ?
Je le savais, oui, plus ou moins, mais c'est bien de le rappeler que ça part d'initiatives de passionnés, d'artistes qui construisent des projets ambitieux, mais qui commencent dans un appartement.
Oui, il était photographe lui-même, il est hélas décédé, et il s'est mis au service des autres.
Et donc, cette sélection-là m'a ramené un petit peu aux joyaux, aux pépites qu'on a un petit peu exhumées. D'ailleurs, je pense notamment à Jean-Pierre Gilson, qui est intervenu dans la région en 1984.
Trois invitations, le travail qui est exposé à Bruxelles sur les paysages industriels dans les années 80, principalement autour de la mine. Après, j'ai fait un autre travail, sur rivage, c'est-à-dire les paysages de nuit de la côte française, anglaise et belge. Et le troisième travail sur le paysage du Paris-Roubaix en hiver, sous la pluie.
L'idée, en fait, était de rendre hommage au centenaire de l'immersion dans la région, par Zola pour l'écriture de Germinal. Et donc déjà à l'époque, en fait, s'interroger sur un héritage, en quelque sorte, ou sur une actualité de l'industrie dont il percevait bien la mort annoncée à l'époque.
Je m'intéresse beaucoup au paysage du Nord, pour situer... Le début de ma carrière de photographe de paysage, je l'ai fait en Écosse. Parce que j'ai commencé ma carrière à Compiègne, mais je faisais de la photographie animalière, puisqu'il y a une forêt importante. Et j'ai été en Écosse pour aller photographier les cerfs, parce qu'en Écosse, il y en a beaucoup, comme j'en photographie à Compiègne. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux du paysage, et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de photographe de paysage.
Et en même temps, la prégnance dans le quotidien, que ce soit dans le paysage, dans l'habitat, dans la réalité quotidienne, et qui était encore incarnée par des individus qui avaient connu la mine.
J'ai beaucoup aimé ce paysage du Nord, parce que je trouve que quand on traverse le Paris-Roubaix, en dehors de la course, où c'est calme, on a l'impression qu'on traverse, c'est comme la colonne vertébrale du Nord, zigzagant, et je trouve qu'on retrouve l'âme du Nord en prenant ce parcours. C'est ça qui m'a particulièrement attiré quand j'ai fait ce travail sur le paysage.
Alors Jean-Pierre Gilson, pour qui nous écoute et pense Paris-Roubaix, ont deux images en termes de journalisme cycliste, l'enfer et les pavés.
Et les pavés. Alors,
c'est ce qui vous a intéressé ?
Oui, les pavés. C'est pour ça que j'ai fait tout mon travail là sur le paysage du Paris-Roubaix, l'hiver, sous la pluie, pour avoir une matière sur les pavés. Et l'enfer, j'avais un paysage qui était quand même très, un peu chargé du ciel. Ça me faisait penser à l'enfer, ça, c'est absolument évident. Puis en noir et blanc, en plus, Parce que ce paysage, pour moi, c'est... Puis je travaille principalement en noir et blanc.
Bonjour.
Je vois Jean-Pierre Gilson qui sera interviewé dans un instant, après notre visite.
Et donc ça, c'était pour moi la porte d'entrée évidente.
Ce qui m'a marqué d'abord dans ce paysage, c'était le vent. Les photos de nuit, vous savez, on les fait qu'à un moment donné, arrivée la nuit noire, après, c'est plus du tout, on n'a plus de détails. Alors je faisais entre chien et loup, pour qu'il y ait quand même un petit peu de matière dans le ciel, qu'il ne soit pas complètement noir, parce que ça m'intéressait moins. C'est un paysage, vraiment, tous ceux que j'ai faits, la plupart, quand je pouvais, je les ai faits entre chien et loup, parce que j'attache beaucoup d'importance au ciel. Parce que je veux qu'il y ait de matière dans le ciel, que ce ne soit pas un noir absolu. Sinon, c'est un noir absolu, ça peut bien... Puis ça permet aussi quand même d'avoir un peu de détails. Sinon, maintenant, on peut le faire, parce qu'avec le numérique, on peut tout faire. Mais quand même, il y a des limites. C'est aussi une lumière. Cette lumière, même s'il n'y en a plus, c'est quand même une lumière. Entre chien et loup, dans toutes ces photos-là, il y en a d'autres. Ben ça, c'est pareil. Là, c'est en ville. En ville, c'est un peu différent parce qu'en ville, il y a de la lumière, des lampadaires. Donc, c'est pas une vraie nuit. Mais là, c'était sur le bord. Il y avait pratiquement une vraie nuit. Il n'y avait pas de lampadaires. Vous voyez, ça, il n'y avait pratiquement pas le peu de lampadaires qu'il y avait. Alors, c'est des pauses très longues. Là, c'est un quart d'heure, 20 minutes parce qu'il n'y avait pratiquement pas de lumière. Mais c'était aussi entre chien et loup. Là, c'est pareil. C'est 20 minutes. Le bateau, sinon on n'a pas. Bon là c'est un lever de. C'est le lever au Touquet, un lever de soleil. Bon, avant le lever de soleil, juste avant, quand il commence à y avoir un tout petit peu de lumière. Pour qu'il y ait ces petites. Parce que si vous avez un aplat noir, ça permet de faire des rapports graphiques entre.
Et puis le constat d'un démantèlement qui a été posé peu de temps après, en 87, par Bernard Plossu, pour ce qui concerne Usine Or.
J'aime bien jouer sur le graphisme de mon paysage. En plus, j'ai donné des petits coups de flash pour faire ressortir certains détails, comme là ou là. Et comme c'est des pauses très longues, j'ai le temps de donner un petit coup de flash, aller d'en remettre un petit coup ailleurs, mais assez près, parce que le flash, évidemment, ça porte pas très loin. Mais c'est calé celle de... Il y en a une ou moins. Ça, vous voyez, ça c'est typique entre chien et loup.
Et puis, ce qui va tomber ou s'élever, c'est selon, dans une forme d'imaginaire aussi, de reconstitution de cette mémoire à travers la série Nuit Blanche de Semeniaco, qui transcende en quelque sorte cette dimension de ruine qui peut être mortifère, évidemment, et surtout quand elle représente l'environnement quotidien avec tout le poids que ça représente, et qui passait à une dimension complètement déréalisée et mystérieuse aussi de ce qui subsiste de cet environnement et qu'on risquerait à terme de ne plus pouvoir décrypter finalement. En n'en ayant plus que les dernières traces ou derniers signes, mais en ayant du mal à les rattacher justement à une dimension vécue, qui avec le temps, effectivement, voit la disparition de ces acteurs et de ces témoins directs.
C'est beaucoup plus tard dans la nuit, vous voyez, il n'y a presque plus rien, il n'y a plus de détails. C'est cinéma paradisio, ça. Ça, c'est tout à fait ça. Maintenant, ils en ont fait un office de touriste, c'est une horreur, alors que c'était magnifique. Je pensais à une autre photo où vraiment le ciel avait une importance. Je ne la retrouve pas, évidemment. Cette trouée dans le ciel qui a fait ce reflet, qui fait un peu toute la photo.
Depuis une quinzaine d'années, on essaye d'attirer des technologies, effectivement des entreprises à haute valeur technologique. Valenciennes a des sites comme Bombardier ou Sevelnor, donc qui sont des industries à valeur ajoutée. Et puis l'avenir, là, qui se dessine, c'est vraiment les nouvelles technologies, l'imagerie numérique. Et c'est vers cela que semblent tendre, effectivement, maintenant, les industries nouvelles qui se réinstallent sur le territoire et qui ont lien, justement, à l'image.
C'est une photo de terril qui a été à Carvin. Alors voilà, j'ai fait l'opposition entre les sillons du cultivateur qui avait fait des... C'est très graphique, ça a un rapport avec la route. Toutes les lignes du labour, toute la direction s'en va vers cette espèce de... On dirait presque un... C'est plus un terril, c'est une espèce de... Je dirais comme dans le Sahara, on dirait une petite dune de sable. elle est écrasée, c'est pas les terrils pointus qu'on a l'habitude de voir, parce qu'il y a aussi les terrils plats qui ont prêté jusqu'en haut, on n'a pas terminé, je sais pas, c'est spécialisé dans la mine pour savoir à quelle époque il a été fait. Là, le brouillard, le terril en fond apparaît tout juste. C'est un rapport entre du noir vraiment, le labour est vraiment noir, et la route aussi, et le terril qui est très clair.
Donc votre travail, comme je peux l'entendre ou le sentir, est une relation entre les traces laissées par l'homme et dans le paysage, dans la nature.
Oui, il n'y a jamais personne sur mes photos, mais il y a toujours les traces de l'homme partout. Que ce soit un champ, que ce soit là, un terril, que ce soit une bordure quelconque, un chemin, il y a automatiquement quelqu'un qui l'a fait, il n'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit. Il y a toujours ça dans mes photos, il y a toujours des... À part dans certains paysages écossais où là, c'est vraiment la nature à l'état pur, là, il n'y a pas de traces de l'homme, ou très peu, à part quelques, des fois un petit sentier ou un chemin. Mais la plupart du temps, il y a une trace humaine. Ça, j'y attache l'importance. Ce qui me permet aussi de créer une architecture, parce que l'architecture dans mes photos de paysage est importante. Je suis très attaché au graphisme de l'image. La construction graphique. C'est tout dans les autres, c'est pareil. On est dans le même rapport en plus de noir et de blanc. Vraiment, je jouais sur le noir et le blanc. Là, on a les restes, le terril. En premier plan, et puis en arrière-plan, et entre deux, les maisons. Donc là, on a le rapport de l'homme au travail. Là. C'est tout à fait... Et en plus, j'avais fait aussi un travail sur des retraités des mines à l'époque, dans ces années, un peu plus tard, aussi, comme reportage, dans les années 90. Bon, là, c'est plus du reportage, mais... J'en fais pas de souvent, mais bon, je reconnais que je suis aussi attiré par le reportage. Bon, je suis parti dans le... Comme moi, j'ai eu deux carrières, une carrière de photographe scientifique plus une carrière de photographe paysagiste. Donc, le reportage, faut y être tout le temps sur le terrain pour faire des choses intéressantes. J'étais pas assez sur le terrain pour me lancer dans le reportage, puis... Je sentais mieux le paysage que le reportage. Mais je reconnais que de temps en temps, ça me titille un peu dans la tête d'en faire.
Résiste Nature, l'une des autres grandes expositions qui a lieu au Palais des Beaux-Arts, qui ouvre le 27 juin. Une exposition qui va vraiment passer à travers l'histoire photographique, documentaire, mais aussi sur l'histoire de l'art, donc qui commence dans les années 60, mais qui va jusqu'au contemporain. La commissaire de l'exposition, c'est Christine Hayen. Christine Hayen, qui sera aussi la directrice de la Biennale d'art à Casablanca à l'automne.
Donc c'est ce qui identifie un petit peu, dans le positionnement aussi de l'exposition sur le plan physique, un terrain premier et sous-jacent au niveau moins un de l'exposition. Et puis une actualité de cette question avec un petit peu cette double entrée. D'une part, la question de l'héritage sous forme monumentale. C'est la série de Ribalta qui, lors de sa résidence au CRP, s'est intéressée aussi à la notion de renaissance, en fait. Que faire de cet héritage ? Comment en valoriser la mémoire, voire comment le redéfinir. On pense à l'installation du Louvre à Lens, sur laquelle il a pas mal travaillé aussi, quitte à le dénaturer. Voilà, ça c'est évidemment une question qui fait débat sur le plan patrimonial, tant en termes de patrimoine humain que de patrimoine bâti. Et puis en travaillant aussi sur la dimension de l'actualité et de la permanence d'une activité industrielle qui est mise en œuvre évidemment par les préoccupations de Claire Chevrier et qui lie cette dimension-là à la dimension spatiale.
Les images que l'on voit sont des images où le travail se produit dans une industrie vivante. Mais les friches vous intéressent-elles ?
Là, il n'y en a pas dans cet ensemble-là, parce que c'est peut-être quelque chose que j'ai eu l'impression d'aborder.
Claire Chevrier.
Plus dans le travail avant, autour des mégalopoles, Quand je commence sur les limites de la nature et de la ville, on commence à avoir des zones de nature avec des premiers immeubles, des premières constructions, des no man's land, des bidonvilles, des choses comme ça, ou des friches, des bâtiments à l'abandon, c'est souvent à la périphérie. Et petit à petit, je rentrais dans la ville. Sur cette résidence-là, la question était de partir plutôt de l'intérieur du travail. La friche, c'était plutôt des lieux qui arrivent malgré tout à exister encore, certains qui fonctionnaient très bien, notamment Sirail, le travail de câblage sur les TGV, des choses comme ça, ça c'est des métiers qui ne vont pas péricliter. Mais toutes les usines qui travaillaient le métal, avec le métal en fusion, tout ça, ou le pipeline à Dunkerque, ils étaient tous dans l'inquiétude de continuer à exister. Est-ce que là aussi ça ne va pas péricliter comme en 2005 le travail du cuir? Donc tout ce qui était les métiers liés au fer, on sentait une grande, grande inquiétude, aussi bien au niveau des ouvriers que des directeurs. Autant, je pense qu'il y a quelques temps, il y avait beaucoup de photographes, je pense notamment à Jean-Michel Kopf, qui a beaucoup photographié l'ouvrier, mais plus sous un aspect de l'ouvrier qui se fait exploiter par le patron et tout ça, ce qui est une réalité. Mais là, finalement, en travaillant dans ces entreprises-là, on sentait une grande préoccupation de est-ce qu'on va encore exister demain, du coup qui concernait tout le monde, aussi bien les patrons que les ouvriers, on les sentait très 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 inquiets de ça.
Ben c'est une démarche documentaire, évidemment, éminemment documentaire. Elle travaille souvent aussi sous un cadre de mission ou de commande qui lui permet vraiment d'avoir les moyens d'explorer sur un temps long un territoire. Ça a été le cas au CRP quand elle a été invitée par ma prédécessrice en 2010. C'est plus de 2 ans où elle a pu effectivement résider dans différentes entreprises du territoire avec une approche qui était documentaire mais qui est singulière et qui est la sienne. C'est comment effectivement, au-delà de témoigner d'une certaine forme d'objectivité sur des conditions de travail, elle va trouver un angle de rapproche qu'elle va mettre en valeur à travers cette série et qui va effectivement nous amener aussi, encore une fois, à considérer des gestes au travail, un certain nombre de pratiques des salariés dans le lieu de travail, d'en prendre conscience, de pouvoir aussi comprendre leur nature, qu'est-ce qui se joue derrière aussi en termes social, culturel. Donc c'est comment une image documentaire dit énormément de choses à travers la série, derrière effectivement tout ce qu'elle semble de façon assez évidente prendre, parce qu'il y a une singularité, il y a un choix, il y a un point de vue, et il y a un projet surtout. Et il y avait un vrai projet derrière, il y a toujours un vrai projet derrière la démarche de Claire Chevrier.
Claire Chevrier, ce qui n'apparaît pas dans vos images par la force des choses, c'est le bruit au niveau du son. Comment ces lieux sont-ils?
Ça dépend. Il y en a des très très silencieux et des très bruyants. Tout le travail du fer, effectivement, le métal en fusion, tout ça, c'est des immenses usines où il y a en général du bruit. D'ailleurs, en général, les ouvriers sont équipés tous obligatoirement de bouchons pour se protéger les tympans. Ça fait partie des normes de sécurité. Mais à contrario, il y avait d'autres lieux très silencieux, comme Super Diète, qui fabrique des comprimés à base de plantes, où là, au contraire, c'était très silencieux. Il y avait même les machines, tout ça, il y avait toujours des labos, des zones d'analyse, des choses comme ça. Donc là, au contraire, c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Et là, le projet, en l'occurrence, était vraiment d'essayer d'aller dans des typologies d'industries très différentes.
L'emprise territoriale de l'activité industrielle est manifeste par rapport aux grands sites délaminés, notamment, qui occupent un périmètre gigantesque et monumental, mais occupe aussi une présence spatiale liée à l'activité humaine, presque à l'échelle de la fourmi ou du micro dans ces énormes infrastructures, et bien poursuit une activité, notamment dans la construction des tubes pour Europipe à Dunkerque, et poursuit aussi la question de cette connaissance de l'utilisation de l'outil, alors qui est aussi décliné par Claire Chevrier.
N'avez-vous pas l'impression d'avoir sur le travail un regard que personne d'autre qu'un photographe ou qu'une photographe n'a?
Oui, probablement. Enfin, j'ai peut-être aussi l'impression que si on reprend peut-être l'histoire de la photographie, À chaque personne a un regard particulier, je suis bien d'accord. Mais en même temps, je pense, bien sûr, qu'on va photographier avec notre œil, notre regard et aussi notre projet. Le protocole de travail est aussi déterminant que le regard. Et en même temps, malgré tout, j'ai l'impression que les photographes à différentes époques ont restitué en fonction aussi de comment le monde évoluait. Je pense à toute la série de Walker Evans ou Dorothy Lange qui ont photographié les fermiers américains où c'était la pleine crise. Donc ce qu'ils révèlent, c'est aussi avec leur regard, mais c'est aussi la réalité. Et ça serait différent forcément maintenant. J'en parlais tout à l'heure à Jean-Louis Scholkopf, qui au moment où il fait son travail, c'est aussi ce moment-là où l'exploitation de l'ouvrier était très présente aussi. Donc alors, je ne dirais pas qu'on ne fait que restituer l'existant, parce qu'à génération égale, on va avoir des perceptions différentes.
Et dans parfois une dimension un petit peu plus humaine, ou à plus petite échelle, on pense notamment aux ESAT, hein, donc à ces ateliers protégés, qui démontrent aussi que la culture ouvrière liée à ces ensembles de production repose sur une connaissance et des savoir-faire incarnés littéralement.
Je pense qu'on ne fait pas tout, c'est aussi un dialogue avec la réalité et avec comment on va aller capter des images de la réalité. Mais du coup, je pense qu'à chaque génération, à chaque période, à chaque moment charnière, il y a des choses qu'on ne refera jamais de la même façon et plein de nouvelles choses. Des fois, on dit que toutes les images du monde ont été faites. Moi, je pense que pas du tout.
Dans son travail, cette double lecture m'interpellait particulièrement et permettait aussi de donner un visage à ce qu'est la réalité industrielle. Ce n'est pas une abstraction, mais c'est aussi une incarnation par toutes ces mains et tous ces cerveaux aussi qui savent manipuler ces outils et pas simplement les élaborer.
C'est l'appropriation de l'espace par les gens qui travaillent, qui vous intéressent.
Oui.
Avez-vous l'impression que le travail est plus dur aujourd'hui que par le passé ?
Il est différent. Au jour d'aujourd'hui, le sentiment que j'ai, la tâche en tant que telle ne me paraît pas plus dure. Ce qui me paraît très dur, c'est plus dur. Enfin, quoi que ça dépend de quelle période on parle. C'est que je pense qu'on est à un moment charnière du manque de travail. C'est plutôt le chômage. Enfin, ce que j'ai ressenti dans ce moment-là où j'ai traversé ces lieux, en plus après, un an ou deux après, j'ai fait un travail avec le musée de la photo de Charleroi. Mais j'avais l'impression, enfin, ce que j'avais dit à Xavier Cannon, Charleroi m'intéressait d'autant plus que pour moi c'était une sorte de métonymie de l'Europe. C'est-à-dire, c'était pas tant Charleroi en tant que Charleroi, même si j'ai trouvé la ville passionnante, mais pour moi, je trouvais qu'elle était catalyseur ou révélateur de la situation européenne. Je reviens souvent sur ce point de bascule. Les lieux que je vais chercher, que je choisis, c'est souvent des lieux qui sont à un moment charnière, à un moment de transition. En faisant ce travail à Charleroi, j'avais vraiment l'impression d'être à un point de bascule où notre bonne vieille Europe, elle en est où ? Est-ce qu'elle se remet en cause et on va retrouver du travail et il va y avoir une nouvelle énergie ? Ou est-ce que c'est l'effondrement ? J'ai vraiment ressenti ça comme ça à ce moment-là. Et pour moi, la dureté, elle est plus dans l'absence de travail.
Muriel Enjalran.
À contre-type à Bruxelles, de votre point de vue, que voit-on ?
Alors, on découvre une exposition qui sont une pluralité de regards sur la ville de Bruxelles, qui sont attachés au programme de résidence que Contre-Type maintenant porte depuis 15 ans. À peu près 10 artistes qui ont mené des résidences sur des temps variables ces 10 dernières années et qui, avec leur sensibilité, leur approche, toutes vraiment très diverses, nous invitent à porter une attention particulière à des détails dans la ville, à ces changements, à ces strates historiques. Qui est personnifié. Et ce qui est intéressant, c'est comment effectivement la ville qui est notre environnement quotidien, qu'on pratique comme usager, tout d'un coup prend une dimension magique, poétique, fantasmagorique à travers le regard de ces artistes. C'est pour ça que j'ai appelé l'exposition Métaphorail, du grec métaphore. L'anecdote, c'est que c'est assez beau puisque le terme métaphorail en grec sert aussi à désigner des tramways de transport en commun qui parcourent Athènes. Et je trouvais ça assez beau aussi, cette idée de transport, on est transporté dans un parcours effectivement à travers ces différentes propositions d'artistes et effectivement cette idée de métaphore aussi de déplacement, d'enrichissement, de sens amplifié d'un objet ou d'un espace qui peut sembler très commun et très usuel, tout d'un coup prend une dimension sous l'objectif de ces photographes tout à fait autre.
Car la métaphore est une image.
Oui, c'est vrai. Exactement. Tout à fait.
Comment s'appelle le lieu que vous dirigez ?
Alors, c'est le CRP, Centre Régional de la Photographie Hauts-de-France. C'est un des premiers centres d'art pour la photographie en France, puisqu'il trouve son origine à la fin des années 70, début des années 80. C'est d'abord attaché à une activité de photographie amateur liée au site industriel Usine Ordenin, qui prend tout d'un coup, au début des années 80, une dimension avec l'invitation à des artistes de renommée comme Cartier-Bresson qui viennent à Denain. Nous sommes à côté de Denain, d'Ouchy-les-Mines. Ouchy-les-Mines, c'est 15 km au sud de Valenciennes, donc on est en plein cœur du bassin minier. Ce qui explique aussi aujourd'hui l'exposition, la nature de l'exposition qui est présentée au Centre d'art Contre-Type. Donc 84, un des premiers centres d'art pour la photographie, qui présente des artistes dans ses murs, produit des œuvres, mais aussi lance des commandes, et notamment la commande photographique Transmanche, qui nourrit à certains endroits cette exposition aujourd'hui à Contre-Type. Et ce sont effectivement, sur une quinzaine d'années, près de 30 artistes qui sont intervenus sur le territoire, qui est un territoire en train de muter, qui avait vu cesser ses activités industrielles et qui devait effectivement se reconstruire, se repenser à l'image de ces paysages qui eux-mêmes avaient été complètement transformés par l'activité de charbonnage et sidérurgie et qui aujourd'hui devaient retrouver un usage pour ses habitants, une nouvelle économie. Donc la collection, elle est aussi le reflet de cette identité mouvante du territoire des Hauts-de-France maintenant, du ex-Nord-Pas-de-Calais.
Daniel Lénard.
Et alors ce versant humain est forcément décliné aussi par Marc Pateau, hein, qui a donné à cette série, elle aussi issue d'une résidence de recherche et de création, l'intitulée Humaine, et qui pour moi résume de manière remarquable en fait cette rencontre des individus qui ont hérité d'une réalité industrielle et qui, dans leur vie aussi, ont du mal à la dépasser. Parce que c'est l'identité qu'on leur assigne, c'est de n'être que des héritiers. Et Dieu sait que l'héritage, dans ces conditions-là, est plutôt maigre en termes économiques. Et donc, la rencontre, en fait, qu'il a eu la chance de faire, ou les rencontres qu'il a eu la chance de faire lors de sa résidence, ont déterminé son projet, qui est un projet au long cours sur 3 années consécutives. Alors, il n'a pas résidé 3 ans continuellement sur place, mais est revenu ponctuellement pour travailler en fait avec 3 femmes qu'il a rencontrées, avec des destinées spécifiques et avec un échange permanent et une connaissance de l'autre pour essayer de comprendre comment est vécu un territoire et comment l'est spécifiquement celui de la région de Douchy-les-Mines. Et donc, lui-même était en partie surpris aussi par le tour compris ces photographies, alors qui comportent pour une petite part des paysages, des vues extérieures, mais qui ramènent à la réalité post-industrielle, et notamment sur la fosse de la Boca, qui est vraiment une des implantations minières principales à Douchy, qu'on voit encore dans son terrain, dans son terreau, si on peut dire, et dans la matière qui a été exploitée sur place, à savoir le charbon, et qui donne en fait pour vis-à-vis des portraits, des nus également, qui attestent aussi de l'emprise, même s'il n'a pas été direct pour ces 3 femmes, mais de l'emprise de cette réalité sur les corps, sur les visages, sur les postures, et sur la qualité de l'échange aussi, puisque il y insiste dans son livre. Désormais, les personnes ne sont plus là pour témoigner directement, mais c'est donc un souvenir de la réalité minière qui est néanmoins quand même encore convoquées par ces femmes et qui, dans leur quotidien, inventent aussi de nouvelles formes dans ces territoires. Il insiste beaucoup aussi sur le tissu social qui doit être renoué sur d'autres bases, avec d'autres liens, l'investissement aussi auprès des enfants, la nécessité aussi de réinventer d'autres formes de survie ou de vie professionnelle et économique dans des territoires où elle est difficile à réinventer, parce que voilà, cet héritage, il est pesant, et que ce sont des zones qui sont aussi délaissées par une activité économique qui a été tellement monopolistique qu'elle a effacé finalement les autres aspects de la vie économique et professionnelle.
Donc ce centre d'art a une activité d'exposition dans les murs, comme le centre d'art Contre-Type, a une collection,
Muriel Angelran,
comme le centre d'art Contre-Type, qui émane justement directement cette activité de production, soit au travers de résidences, soit au travers de commandes, comme je venais de l'évoquer.
N'a-t-il pas une odeur d'aéroport, là, derrière ?
Tout à fait, mais qui se mue en tableau abstrait, d'abstraction géométrique, avec cette ligne de fuite que composent ces parapets d'aéroport avec Elena Broterus.
Une artiste finlandaise résidant en France, me semble-t-il.
Tout à fait, qui a d'ailleurs eu récemment encore une belle exposition au Centre d'art Contre-Type.
Génération Tahir, là on reste avec le Centre culturel Jacques Franck, donc on reste dans la thématique de la résistance.
Et de la photographie.
Les bruits de l'image également. Donc là, on retrouve aussi l'artiste Joseph Kudelka qui est dedans. Donc c'est aussi une exposition du Centre culturel Jacques Franck.
À Bruxelles, à l'espace Contre-Type, l'industrie après, jusqu'au 2 septembre.
L'exposition des photographies de Philippe Grasse à l'Alliance française, Bruxelles-Europe. C'est que la thématique est très claire.
Avec à Bruxelles, Claire Chevrier, Muriel Angelran, Daniel Lennart et Sophie Lauwers. À Douchy-les-Mines, Muriel Angelran, Jean-Pierre Gilson.
Pierre de Bugère au Met, nouveau partenaire aussi cette année, exposition sur un artiste multidisciplinaire, un mille pattes en fait, qui travaille pour différentes disciplines qu'on retrouve au Centre de mode et design. Et Unrest, l'exposition au Martin, aussi dans la même thématique, dans le narratif autour de la résistance. Et puis, évidemment, l'exposition de Joseph Kudelka, qu'on va découvrir tout de suite après. Donc ici, vous avez un aperçu de toutes les expositions qui auront lieu à Bruxelles, d'un côté dans la thématique de la résistance, et d'un autre côté, ce qui est la priorité, bien sûr, sur le médium de la photographie.
Été de la photographie. Par Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Pourquoi ?
Parce que toutes les personnes autour des autistes qui travaillent avec eux, ils essayent, de par leur maladie, de les faire être là, ici et maintenant. Enfin, moi, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Ils partent dans leur monde et ils sont toujours légèrement à côté. Et donc, tout le travail que font les éducateurs avec eux, c'est d'essayer de les ramener ici et maintenant. Voilà, c'est pour ça que j'abondais dans votre sens.